solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel.
Bonjour, bienvenue sur Radio Utopia, je m'appelle Laurine. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un projet de la classe de terminale ES du lycée Jean Lursa, accompagné par Madame Grant et Madame Brouchos. Je suis accompagnée de Mathieu.
Bonjour Laurine. Mathieu. Bonjour Laurine.
Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet d'actualité, les migrants et les réfugiés politiques.
Donc, bonjour Olivier.
Bonjour.
Donc, tu vas nous parler tu vas donner une définition de qu'est-ce qu'un migrant.
Oui.
Donc, je te laisse lancer ta chronique.
Alors, un migrant est une personne qui séjourne dans un pays différent de son pays de naissance pour une durée d'au moins un an. Quelle qu'en soit la raison, économique, culturelle ou politique, un migrant sera un immigré mais pas forcément un réfugié. Le statut de réfugié est un statut spécifique. Depuis la Convention de Genève de 1951, certains migrants peuvent être des demandeurs d'asile dans le cas où ils sont persécutés dans leur pays. L'obtention du statut de réfugié ouvre des droits définis par cette convention, comme le versement d'une allocation de subsistance. En France, elle est de 6,8 € par jour et d'un hébergement. Mais ce statut ne donne pas le droit de travailler dans le pays d'accueil avant 9 mois de résidence. La procédure pour obtenir le droit d'asile est longue. En attendant que leur dossier soit examiné, ces migrants se trouvent donc en situation irrégulière, sans papier et dans une grande précarité. L'augmentation des réfugiés en Europe ces dernières années résulte notamment de la multiplication des conflits dans le monde, plusieurs en Afrique, 3 au Moyen-Orient, 1 en Europe et 3 en Asie. Par exemple, la guerre en Syrie a conduit environ la moitié de la population à s'exiler.
Merci Olivier. Maintenant nous accueillons Marie. Bonjour Marie.
Bonjour Laurine.
Que peux-tu nous dire, quels sont les outils qui ont permis de définir le statut de réfugié ?
Alors, la Convention de Genève de 1951 est relative au statut des réfugiés. C'est un texte de droit international qui définit ce qu'est un réfugié, quels sont ses droits et quelles sont les obligations des États signataires à son égard. Selon cette convention, le statut des réfugiés est un statut qui est accordé à une personne persécutée ou qui craint de l'être dans son pays d'origine. Ce terme est utilisé pour désigner toute personne contrainte de quitter son pays et qui ne peut pas y retourner. À l'origine, la Convention de Genève se limitait à protéger les réfugiés européens immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Pour tenir compte de l'évolution de la situation des réfugiés dans le monde, le champ d'application de la Convention a été étendu sur le plan temporel et géographique par le protocole de 1967. Jusqu'à présent, 147 États au total ont signé la Convention de Genève et le protocole de 1967.
Merci Marie pour ces informations. Nous allons maintenant écouter EDBI de Alphaï.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye. Warago weni wagoka gahugu gatoyi gahugu kaniniya.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisseni. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, warago weni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude, réputation recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu katoyi, gaugu kaniniya, warapunu weni wapuye, warago weni wagoka. Gaugu katoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'en canaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope. Citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu katoyi, gaugu kaniniya, warapunu weni wapuye, warago weni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu ris, je ris. Petit pays, je saigne de tes blessures.
Petite précision, ce n'était pas EDBI, mais petit pays, excusez-moi. Donc nous sommes avec Cassandra. Bonjour Cassandra.
Bonjour Mathieu.
Donc tu vas nous parler de la guerre en Syrie. Peux-tu nous expliquer pourquoi le conflit en Syrie a-t-il commencé ?
Oui Mathieu. Afin d'expliquer le conflit syrien, nous devons d'abord voir ce qu'était la Syrie avant 2011. Avant 2011, la Syrie est un pays de 23 millions d'habitants pour une superficie de 185 000 km². Ses frontières ayant été établies suite à la Première Guerre mondiale et la chute de l'Empire ottoman. Elle reste sous mandat français jusqu'en 1946. Suite à cela, elle connaît des épisodes démocratiques, mais surtout des coups d'État militaires, dont celui du parti Baas en 1963. Ce coup d'État établit le régime actuel. En 1970, Hafez al-Assad, père de Bachar, prend le pouvoir par la force en se débarrassant de ses opposants et adversaires. Une dictature sécuritaire verrouillée est mise en place. En 2000, suite à sa mort, son fils Bachar prend le pouvoir. La dictature continue pour le peuple syrien. En 2009, la jeunesse éduquée et active sur les réseaux sociaux se révolte, comme d'autres peuples avant eux, tels que la Tunisie et l'Égypte. On parlera de printemps arabe. Le peuple descend dans les rues dans un but de changement pour acquérir justice, liberté et dignité. Les Syriens se révoltent contre un système tyrannique qui s'impose à eux depuis 40 ans.
Mais en 2011, quand les jeunes ont écrit sur les murs arabes du pays « Le peuple veut la chute du pouvoir », entre guillemets, quelles sont les conséquences ?
Il y a beaucoup de conséquences. Ils sont arrêtés par le service de sécurité et torturés. Les manifestations s'intensifient. Alors que les pacifiques réclament la démocratie, les forces du régime tirent sur la foule. S'ensuit des morts et des blessés. Après plusieurs cycles manifestations-répression qui ont lieu durant plusieurs mois, la Syrie recense 5000 morts en fin 2011. Les contestataires ont donc pris les armes. La contestation commence par une logique de défense. Le peuple veut défendre leur quartier et leur village contre l'armée. Certains soldats refusent de tirer sur leurs concitoyens, certains sont exécutés, d'autres fuient en Turquie. S'ensuit la création de l'armée syrienne libre. Ils appellent les autres militaires à les rejoindre afin de renverser le pouvoir en place. Ainsi, on voit apparaître une guerre civile où des extrémistes essayent de profiter de la confusion pour s'emparer du pouvoir.
Merci Cassandra pour tes informations. Donc maintenant, nous allons accueillir une invitée qui va nous témoigner de son expérience en Syrie. Bonjour Dania.
Bonjour.
Tu vas bien ?
Oui, merci.
Donc je laisse la parole à Marie qui va te poser quelques questions.
Alors bonjour Dania. D'abord, quel âge as-tu ?
18 ans.
Alors pour quelle raison as-tu quitté ton pays ?
Syrie.
Pourquoi tu es partie de la Syrie ?
À cause de la guerre.
Et est-ce que tu es venue seule ou tu es venue avec des membres de ta famille ?
Non, je suis venue avec mes parents.
D'accord. Et par quel moyen es-tu venue en France ?
Avec... d'abord j'étais en Syrie, après je me suis allée en Irak.
Oui.
J'ai resté en Irak 12 ans. Mmh. Et après, je suis venue en France avec le visa.
Tu es venue comment ? T'as demandé un visa ?
Non, mon oncle était là depuis longtemps. Et c'est lui qui fait le visa et papier et tout. Et après, on est venu.
D'accord.
Mm-hmm. Ton oncle, il est en France depuis combien de temps ?
Depuis 17 ans.
Ah, ça va. Et est-ce qu'en France, tu as le droit à des aides sociales ?
Oui.
À lesquelles ? Auxquelles ?
Il y a au Cada Caraville. C'est eux qui...
Non, des aides sociales. Est-ce que le pays, la France, te donne des aides financières, de l'argent ?
Oui, oui, c'est Ilia ou la CAF.
Ah, d'accord.
Ah, la CAF, oui, d'accord. Longue à la détente. Et en Syrie, tu habitais en quelle ville ?
Hasaka.
Et c'est à côté de quelle grande ville ?
À côté d'Emas.
D'accord. Et aujourd'hui, dans la vie, qu'est-ce que tu fais ?
Ici à France.
Et est-ce que tu travailles ou tu fais des études ?
Non, je suis en formation.
Et tu comptes travailler en France ? Tu as un projet ?
Oui.
Lequel ?
Boulangerie,
ça te plaît ?
Oui.
Et quand tu étais en Syrie, qu'est-ce que tu faisais ? Tu travaillais ?
Non, j'étais au collège.
Et en Irak, du coup ?
En Irak, je travaille, oui.
Tu travaillais, tu faisais quoi ?
Aider des gens.
Tu aidais les gens ?
Mm-hmm.
Comme une assistante sociale ?
Et c'est ça.
Et tes conditions de vie ont changé beaucoup par rapport à la Syrie et la France ?
Oui.
Tes parents, ils faisaient quel métier en Syrie ?
Alors, on est 6 personnes dans la famille ici, France. Mon père, il est maçon en Syrie, mais ici, il ne peut pas travailler parce qu'il ne parle pas français. Et mon grand frère ici, il est maçon. Et mon petit frère, il travaille dans le snack.
D'accord.
Mmh. Et si un jour la Syrie s'améliore, la situation politique, est-ce que tu comptes rester en France ou repartir en Syrie ?
Alors, d'abord, je n'ai pas le droit de retourner en Syrie. Parce que comme je suis venue en France, elle m'a dit que tu n'as pas le droit de retourner en Syrie. Bah, si que je retourne en Syrie, je ne reste pas là-bas parce que je n'ai rien là-bas. Je reste qu'un mois, deux mois et après je reviens en France.
Il te reste de la famille là-bas en Syrie ?
Oui.
D'accord.
Et comptes-tu le faire venir le reste de ta famille en France ?
Ça ne dépend, oui.
Oui, t'aimerais bien ?
Oui.
Et eux, ils ont fait des démarches, un visa ou quoi que ce soit pour venir en France ?
Oui, en Irak, on est fait tout.
Et donc, tu as demandé, est-ce que tu as obtenu ton statut de réfugié aujourd'hui ?
Oui.
Oui ?
Mm-hmm.
Ça a été dur de l'obtenir ?
Un peu. Pas trop.
Et ton adaptation, quand tu arrives en France, c'était difficile de s'adapter ?
Alors, c'est difficile pour moi parce que je venais en France, que je ne parle pas français, et tout. Même des fois, je pleurais parce que je ne parle pas français. Et après, j'ai appris le français parce que j'ai beaucoup accompagné ma parents, ma mère et mon père et tout, avec le centre social et tout ça, j'ai appris le français.
Ça va.
Ça a été dur d'apprendre le français ?
Oui.
Tu as mis combien de temps à l'apprendre ?
Alors, j'étais en Marseille 6 mois. J'habitais à Marseille 6 mois et j'étais aux formations de Ceres. Mais c'était pas très très bien parce qu'on était tous arabes. On parle tous arabe.
Ah, du coup, c'est dur quand t'es qu'avec des gens qui parlent ta langue, d'en apprendre une nouvelle.
Oui, c'est ça. Et après, on a choisi Martigues. on venait à Martigues, je me suis allée à la formation à OCD et j'apprends là-bas un peu français et un peu j'apprends un peu français là-bas et après j'apprends avec mon centre social, c'est elle qui m'a appris français.
D'accord.
Madame Bouchas, je vous pose une question.
Bonjour.
Bonjour.
En fait, j'aurais aimé que tu dises en quelle année tu étais partie de Syrie et que tu nous expliques ton parcours, c'est-à-dire quel pays tu as traversé avant d'arriver en France.
Alors, j'étais en Syrie et en Irak et après je suis allée à Lebanon et Lebanon, je suis venue à Paris.
Et ton intention quand tu es partie de Syrie, c'était d'aller dans quel pays ?
C'était en Irak.
Et pourquoi tu n'es pas restée en Irak ?
Alors, même en Irak, il y a la guerre. Ça a commencé la guerre là-bas aussi. Mon père a dit qu'on va partir en France. Peut-être c'est mieux pour nous ici parce que mon oncle, son parent de mon père, ils sont tous ici. Ben, mon père, c'est lui qui choisit de venir en France.
D'accord. Mm-hmm. Et tu es contente de ce choix ? Tu es contente d'être venue en France ?
Oui.
Juste, est-ce que tu peux nous dire en quelle année tu es partie de Syrie ?
C'était 2015.
Donc tu as subi pendant 4 ans la guerre
non,
là-bas ?
Non, pardon, 2012, c'était 2012 que j'ai parti en Irak.
D'accord. Donc le déclenchement de la guerre civile, c'était 2011 ?
Oui.
Tu as subi pendant un an la guerre, mm-hmm, et les conditions de la guerre. Et en 2012, en tant que Kurde, tu as donc quitté la Syrie.
C'est ça, oui.
Voilà.
Et comment tu vivais en Syrie ? C'était quoi les conditions de vie ?
Hasaka, non ?
Oui, c'était quoi ? Comment tu vivais là-bas ?
Comme ici, pareil, non ?
Pareil ?
Avant, oui, c'était très bien là-bas. Et pas de la guerre, pas Daesh. Ouais. Tout ça, c'est Daesh qui fait. Et après la guerre, maintenant, en Syrie, on ne peut pas rester en Syrie. Parce que là-bas, c'est très cher maintenant. Même maintenant, deux fois qu'on parle en téléphone en Syrie, si on parle, mon oncle là-bas, ça part à ma mère tout là-bas, on parle avec. Là-bas, tu ne peux pas acheter, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de pain, même le pain, il n'y en a pas. Même si que les enfants, mon oncle qui peut acheter un bonbon, c'est très cher, elle ne peut pas acheter un bonbon.
Tu as vu, avant l'émission, tu as vu une expo d'un jeune Syrien,
oui,
qui est au CDI, oui, au San Katan, même si je prononce mal. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu as ressenti quand tu as vu les images ?
C'était pas bien.
C'est pour ça que je te demande.
C'était pas bien. Vraiment, c'était des choses qu'on ne peut pas voir. Jamais, jamais. Que je ne savais pas qu'il y a la guerre à Syrie, non. Je ne savais pas.
Tu aurais préféré qu'on ne montre pas les images ?
Oui.
Ça. Parce que tu veux tourner la page maintenant.
Mm-hmm.
Très bien. Mais merci d'avoir eu le courage de témoigner.
Merci à vous.
Vous avez des questions ? Non, c'est bon, ça va ?
Moi, j'aimerais te demander si est-ce que ta vie avant en Syrie, elle te manque ou pas, avant la guerre ?
Avant la guerre, oui. Même maintenant. C'est que j'ai droit de retourner en Syrie.
D'accord.
Mm-hmm. Oui.
Tu as laissé des amis là-bas, en Syrie, en Irak ?
Eh oui.
Un copain ?
Non, copain non, mais des amis, oui, j'aime beaucoup là-bas, oui.
T'as toujours des contacts avec eux ?
Oui.
Ça va. Tu t'es fait des amis à Martigues ?
À Martigues, oui, que à formation.
Que à formation ?
Oui.
C'est déjà ça. Et tes amis de Syrie, ils veulent pas partir ?
Ben non, je sais pas. Peut-être il y a quelqu'un qui est parti, ou peut-être il y a quelqu'un qui reste là-bas. Mmh. Je sais pas, je parle qu'un avec ma copine là-bas.
Fille veut te poser une question.
Je voulais juste savoir, est-ce que le trajet pour aller en France, est-ce qu'il était difficile ?
Alors, j'ai que un peu, oui. Un peu. C'était... Alors, c'est que mon oncle qui ne fait pas le visa, c'était très, très difficile. Mmh. On ne peut pas venir ici. Mais c'est lui qui fait le visa et tous les papiers. Et nous aussi, on est fait en Irak. C'est pas comme ici, papier. Parce que c'était mon langue pour ça. Non. C'était pas difficile beaucoup. Un peu.
D'accord, merci.
T'es venue en avion?
Oui.
Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Parler de quelque chose?
Je dois remercier à France parce que France, ça.
Comment dire? Ça t'a sauvé?
Voilà, c'est ça. J'ai tout ici maintenant. Il fait mon papier, tous les papiers ici, France. J'ai carte de séjour de 10 ans, j'ai le portement ici. Je dois vraiment merci pour tout le monde qui m'a aidé.
Bonjour, je voulais juste te demander, quel message t'aimerais faire passer aux jeunes qui sont ici et plus largement aux jeunes français? Est-ce que tu as quelque chose que t'aimerais dire, toi qui es jeune et qui a la vie devant toi, qui a 18 ans? Quelque chose que t'aimerais exprimer, leur dire, je sais pas, témoigner par rapport à ce que tu as vécu et de la chance qu'on a de vivre en paix, notamment?
J'ai pas compris.
Non. Est-ce que tu voudrais dire à nous quelque chose que toi tu as vécu, enfin nous montrer qu'on a de la chance d'être dans un pays en paix?
Mm-hmm. Alors je suis contente parce qu'aujourd'hui je suis avec vous. Même je suis contente parce que je veux parler tout. Jamais j'ai parlé comme ça, en série, tout ça. Et oui, je suis contente parce que vous parlez en série ici. Et merci pour vous ici.
D'accord. Donc merci beaucoup, on est très 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 contents de t'avoir accueilli. Et on comprend que ça a dû être très difficile pour toi de témoigner. On va continuer à discuter avec toi en dehors de l'émission. À bientôt.
À bientôt.
Donc du coup, merci Dania.
Merci à vous.
Et donc maintenant, nous allons poursuivre notre émission. Et nous allons écouter la musique de Kenny Arcana, Cinquième Soleil.
S'égare, l'esprit qui surchauffe, les gens se détestent, la guerre des égaux, 21e siècle, cynisme et mépris, non-respect de la terre, folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et ben sang, bombes qui éclatent, politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système pour la mort, assassin de la vie, a tué la mémoire pour mieux tuer l'avenir, des disquettes plein la tête, l'essence nous trompe, le troisième œil ouvert car le cerveau nous ment, l'être humain s'est perdu, a oublié sa force, a oublié la lune, le soleil et l'atome, inversion d'épaule vers la haine se dirige, a perdu la raison pour une excuse qui dit l'égoïsme en devise, époque misérable, haine collective contre rage viscérale, une lueur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur, là où meurt le pardon, où même la foi prend peur. Allez viens nous partons, des lois faites pour le peuple et les rois tyrannisent, confréries et business en haut de la pyramide, ça sponsorise le sang entre chars et usines, innocents dans un ciel aux couleurs des usines, un silence de deuil, une balle perdue, toute une famille en pleurs, un enfant abattu, des milices de l'État, des paramilitaires, des folies cérébrales, des peuples entiers à terre, bidonville de misère à l'entrée des palaces, liberté volée, synonyme de paperasse, humanité troquée contre une vie illusoire, entre stress du matin et angoisse du soir, des névroses plein la tête, les nerfs rompus caractérisent l'homme moderne, bien souvent corrompu, et quand la vie s'endort, arrive tant de fois, une mort silencieuse, un SDF dans le froid, prison de ciment, derrière les œillères, le combat est si long, pour un peu de lumière, les familles se déchirent, et les pères se font rares, les enfants ne rient plus, se bâtissent des remparts, les mères prennent sur elles, un jeune sur trois en tôle, toute cette merde est réelle, donc on se battra encore, c'est la maladie pas qui nous bouffe les tripes, une bouteille de vodka, quelques grammes de weed, certains ne reviennent pas, le serrage est violent, ce butex injecté dans une flaque de sang, des enfants
baraque. Un coup de couteau en trop, c'est plus à la baraque que les mômes rentrent tôt. Ils apprennent la ruse dans un verre de colère. Formatage de la rue, formatage scolaire. C'est chacun sa disquette quand les mondes se rencontrent. C'est le choc des cultures, voire la haine de la honte. Les barrières sont là, dans nos têtes, bien au chaud. Les plus durs craquent vite, c'est la loi du roseau. Non, rien n'est rose ici. La grisaille demeure dans les cœurs meurtris. Qui a petit feu meurt, ne pleure, repas ma sœur. Car tu portes le monde, noble est ton cœur. Prends-toi et remonte, n'écoute pas les bâtards qui voudraient te voir triste. Même terre mère est malade, mais terre mère résiste. L'homme s'est construit son monde, apprenti créateur. Qui a tout déréglé, sanguinaire prédateur. Babylone est bien grande, mais n'est rien dans le fond. Qu'une vulgaire mascarade au parfum d'illusion. Maîtresse de nos esprits, crédules et naïfs. Conditionne en massif, là où les nerfs sont à vivre. Dans la marche et la rage, bastion des galériens. Ensemble nous sommes le monde et le système n'est rien. Prends conscience mon frère, reste près de ton cœur. Méfie-toi du système, assassin et menteur. Éloigne-toi de la haine qui nous saute tous au bras. Humanité humaine, seul amour nous sauvera.
Donc maintenant, nous allons écouter la chronique de Mathieu. Mathieu, est-ce que tu peux nous parler des données ou du nombre d'immigrés et de réfugiés
Bien sûr, Laurine. Donc tout d'abord, il faut savoir que tous les immigrés ne sont pas des réfugiés. Comme nous a dit Olivier précédemment, un immigré est un migrant qui rentre dans un pays pour y travailler ou pour y faire ses études, mais à condition d'y être autorisé par un visa ou un titre de séjour ou d'obtenir le statut de réfugié après avoir demandé l'asile politique. Les immigrés représentent moins de 9% de la population française, 46% des immigrés en France sont nés en Europe et 30% sont nés en Afrique. On confond souvent étrangers et immigrés. Il ne suffit pas de naître sur le sol français pour être français. Donc un étranger peut ne pas être immigré. Les étrangers représentent 5,8% de la population française aujourd'hui. On ne connaît pas précisément le nombre d'immigrés clandestins, mais l'agence européenne Frontex, qui est chargée de contrôler les frontières de l'Europe, a recensé 107 000 immigrants illégaux en 2013, soit 0,16% de la population totale en France. Ces immigrés clandestins n'ont aucun statut et donc ne peuvent recevoir aucune aide de la part de l'État.
Merci Mathieu pour ton éclaircissement. Donc maintenant, nous allons accueillir Philly. Bonjour Philly.
Bonjour.
Et elle va nous parler de l'accueil en France. Donc Philly, que peux-tu nous dire sur comment se fait l'accueil en France ?
Alors en France, que ce soit à Paris ou dans les villages marqués par l'exode rural, l'accompagnement des demandeurs d'asile mobilise de nombreux bénévoles. Plusieurs centres d'accueil sont ouverts. Cela peut aller de centres humanitaires à des centres de demandeurs d'asile. Mais les conditions d'accueil sont plus ou moins précaires. De simples citoyens ont décidé de distribuer des repas, à organiser des collectes auprès d'autres particuliers ou de commerçants pour aider les migrants. Cette solidarité s'organise aussi dans les villages qui y trouvent en plus un intérêt économique. Comme le témoigne une association du village d'Emmaüs, l'accueil des migrants dans ce village de 400 habitants a pu permettre la construction d'une épicerie sociale ainsi qu'un centre de loisirs. Cela représente pour les villages ruraux une véritable richesse puisque des migrants ont permis de redonner au village des services qui bénéficient aussi aux acteurs locaux.
Bon bah merci Philly pour ces précisions. Nous sommes maintenant avec Sarah.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Sarah. Donc tu vas nous parler de l'histoire de l'immigration en France.
Oui.
Donc je te laisse.
La France se caractérise par l'extrême diversité de sa population. En 1851, les étrangers représentaient 1% de la population. En 1931, ils représentaient 7%. Aujourd'hui, ils ne représentent plus que 5,8% de la population française. En 1974, le gouvernement stoppe la venue de travailleurs étrangers permanents et restreint l'immigration aux regroupements familiaux et aux études. Aujourd'hui, un cinquième de la population tire son origine d'autres pays. À la suite des deux guerres mondiales, la France a accueilli l'immigration de réfugiés politiques, mais elle a aussi fait appel à l'immigration face aux besoins de main-d'œuvre. Les immigrés occupent les postes les plus pénibles et les moins rémunérés. Ces derniers sont acceptés tant que la France connaît une forte croissance. Mais à partir de 1974, la France connaît une forte poussée de chômage due à la crise, ce qui entraîne une montée de la xénophobie, cette peur de l'étranger ressentie comme une menace.
Merci Sarah. Maintenant, nous allons écouter l'artiste Clandestina.
Clandestina. Elle m'a dit aime-moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps si tu m'abandonnes. Je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi caballero, non personne ne m'a touché. J'ai les épaules solides, un peu de réconfort. Je lui parle et j'apprends à quel point elle a souffert. C'est une enfant de la guerre qui cache ses sentiments à des milliers de pieds sous terre. La cocaïne a pris sa famille. C'est une clandestina, ami, ami. Elle m'a dit aime-moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps si tu m'abandonnes. Je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi caballero, non personne ne m'a touché. J'aurais pu te dire à quel point elle est sexy, mais pas cette fois, non pas celle-ci. Pour moi, j'avoue j'ai faibli. C'était son histoire ou sûrement le whisky. Et j'ai vu ses paroles. Quand elle m'en parlait d'eux, j'ai vu ses parents, ah, j'ai vu ses paroles. Elle et son frère étaient heureux, tellement heureux. Un jour le feu a pris leurs âmes, parce que d'autres l'ont décidé. Pour que des gringos tapent dans la cam, on sacrifie des destinées. Elle m'a dit aime-moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps si tu m'abandonnes. Je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi caballero, non personne ne m'a touché. Aime-moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps si tu m'abandonnes. Je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi caballero, non personne ne m'a touché.
Donc maintenant, nous allons accueillir Carla. Bonjour Carla.
Bonjour.
Tu vas nous parler des mémoires. Donc, la France, elle a une longue histoire avec la colonisation. Que tu peux nous dire sur cela ?
Eh bien, si des milliers de migrants sont prêts à tout sacrifier pour fuir leur malheur, l'importance qu'ils accordent à leur passé n'en est pas moins négligeable. Il s'agit du travail d'innombrables historiens comme Enzo Traverso, Henri Rousseau, qui centrent leurs études autour de la Seconde Guerre mondiale, ou encore Benjamin Stora, qui porte un intérêt tout particulier aux anciennes colonies françaises. Ces trois spécialistes en viennent à faire un rattachement évident entre mémoire collective et justice. Les rancœurs observées chez ces peuples se justifient par un désir de reconnaissance. Ils soulignent les fortes responsabilités des États. La France, qui n'en manque pas, peut présenter certaines difficultés à assumer ses torts. On pense notamment au régime de Vichy ou à la douloureuse indépendance algérienne. En effet, il aura fallu près d'une trentaine d'années à la France pour qu'enfin le président Chirac, en 1999, avance une version crédible de cette guerre qui fut réduite à de simples événements perturbateurs. Les politiques françaises, celles qui touchent à son histoire, par de longues phases d'oubli, de rupture, vont alimenter la rancœur et provoquer l'insurrection de ces peuples. C'est par des manifestations, des signes de différenciation, qu'ils vont porter réclamation à l'État pour leurs blessures. Ce phénomène, autant notable pour l'histoire franco-algérienne que pour la Shoah, est encore plus remarquable pour toutes les vagues migratoires de grandes communautés qui bien souvent sont mal perçues.
Mais de quelle manière l'État peut participer à leur intégration ?
Eh bien, on peut imaginer la difficulté de ces personnes à lutter et partager leur histoire, remplie de massacres, de trahisons, d'images de violence qui les poussent à abandonner leurs terres. Il y a donc une très grande importance pour l'État hôte, qui, à la manière d'un homme, doit faire preuve de la maturité nécessaire afin d'instaurer une relation de confiance avec ses nouveaux résidents. Pour la France, la décolonisation est l'exemple le plus extrême que l'on puisse avoir pour décrire à quel point elle est impliquée dans l'histoire franco-algérienne et dans la perte des pieds noirs, des appelés, de nombreux harkis, du soulèvement qui se propagea également dans toutes les régions colonisées. Pire encore, l'accueil réservé à ces étrangers, ayant pourtant souffert des actions françaises, provoqua multiples réactions, inégalités et montée du racisme. De ce fait, c'est bien tard que la France comprend l'enjeu social, celui qui permet de réduire les possibles conflits qualifiés par Stora de guerre de mémoire, en réattribuant à ces peuples ce qui leur est dû, leur identité, leur unicité, ce qu'on appellerait l'anamnèse de chaque population. Il est important de souligner que cette reconnaissance réclamée et ce désir de justice par la condamnation des fautifs n'est pas exigé par ce qu'on pourrait nommer les victimes frontales, mais par les générations qui en découlent, comme dans un souhait de rappeler que la force de chacun réside au-delà de son passé, dans son héritage protégé.
Merci beaucoup, Carla. Nous sommes maintenant avec Florian.
Bonjour.
Bonjour, Florian. Tu vas donc nous parler du racisme. On t'écoute.
Alors, qu'est-ce que le racisme ? Le racisme, c'est une attitude de rejet et de haine de l'autre parce qu'il est différent. L'esclavagisme et la colonisation sont le résultat de ce racisme. Les racistes prétendent qu'il y a des races humaines et que certaines sont meilleures que d'autres, même si ce concept n'a aucune validité scientifique. Les différences de couleur de peau, de pratiques culturelles ou religieuses conduisent à ce sentiment de rejet. Pierre-André Taguieff, philosophe, politologue et directeur de recherche au CNRS en France, a rédigé une dizaine d'ouvrages et de nombreux articles portant sur l'évolution du racisme. Enfant d'un père d'origine russe et d'une mère d'origine polonaise, il explique avoir été plongé d'emblée dans un milieu multiculturel. Il a été confronté à l'antisémitisme qui a touché sa femme. Il s'interroge sur le racisme en France, réputé pour être une terre d'asile et le pays des droits de l'homme. Nombreux sont les Français ayant des origines étrangères, tels que Boris Cyrulnik, aujourd'hui reconnu comme un grand psychiatre et psychanalyste français, et lui aussi issu d'une union de deux parents de nationalité différente. Fils d'un père russo-ukrainien et d'une mère polonaise, il est né dans une famille d'immigrés juifs d'Europe centrale et orientale. Son expérience vécue en lien avec les nazis est la raison principale l'ayant poussé à aujourd'hui exercer une telle profession. Manuel Valls est né dans le quartier d'Horta à Barcelone. Au moment de la naissance de Manuel Valls, ses parents sont déjà installés en France. Manuel naît à Barcelone selon le vœu de ses parents, souhaitant que leur fils naisse en Espagne. Nicolas Sarkozy, homme politique de l'État français, est le fils d'un immigré hongrois et d'une mère d'origine grecque et française. Corneille est né en Allemagne, où ses parents faisaient leurs études. Il passe son enfance au Rwanda. Sa mère est Hutu et son père Tutsi. C'est en 1993 qu'il découvre une passion pour la chanson. Il fait alors partie d'un groupe de R&B au Rwanda et s'initie à l'écriture de textes et à la composition musicale. Il a 17 ans lors du premier génocide rwandais. Un groupe armé entre dans la maison familiale de Corneille le 15 avril 1994 et tue ses parents ainsi que ses deux frères et sa petite sœur. Corneille assiste au massacre. Il survit car il s'est caché derrière un canapé. Il s'enfuit au Zaïre à des jours de marche et trouve un refuge chez un couple allemand, ami de ses parents. Antoine Griezmann, footballeur professionnel, est fils d'un père d'origine alsacienne et d'une mère d'origine portugaise. Ses grands-parents maternels ont immigré en France en 1957 dans la ville de Mâcon pour des raisons économiques.
Merci Florian. Donc du coup, pour finir, bonjour, nous allons Laurie. Accueillir Émilie.
Bonjour Laurie.
Tu vas nous parler du coup des frontières.
Alors...
Que peux-tu nous dire sur les frontières où passent les immigrés, etc.
Alors, faut-il abolir les frontières dans le monde ? Cette question fait débat en ce XXIe siècle. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte de crise migratoire européenne. D'après Catherine Wilton de Wenten, professeure à l'UP Paris, et directrice de recherche au CNRS, l'ouverture des frontières rendrait possible à tout individu de circuler d'un pays vers un autre sans avoir à faire des démarches administratives ou sans avoir besoin de visa ou de passeport, et ainsi d'arrêter le trafic des passagers clandestins. Cela favoriserait un échange culturel, social, économique et limiterait les inégalités entre les individus. Régis Debray, dans l'éloge des frontières en 2010, montre qu'elles permettent de définir des communautés politiques, culturelles en leur sein. Aujourd'hui, on voit arriver un flux migratoire aux portes de l'Europe. Les frontières sont des obstacles pour ceux qui veulent entrer dans les pays riches, soit pour fuir la guerre dans leur pays, soit pour venir y travailler.
Est-ce que tous les pays tolèrent que leurs frontières soient ouvertes ?
En effet, il y a des résistances au sein de certains pays riches qui ne veulent pas voir disparaître leurs frontières par crainte d'afflux d'immigrants venant chercher dans les pays riches des prestations sociales. Cependant, Catherine Whitla de Wenden estime qu'il n'y a actuellement que 3,5% de migrants internationaux. Les arrivées ne seraient pas nécessairement massives car les plus pauvres ne partent pas, faute de ne pas avoir de réseau de connaissances, d'épargne ou de savoir-faire migratoire. De ce fait, l'ouverture des frontières pourrait se faire par étapes successives afin de permettre une meilleure égalité entre ceux qui sont sédentaires et ceux qui circulent, de lutter contre les trafics de passagers liés à l'obligation des visas. On s'acheminera vers une citoyenneté globale plus équilibrée et davantage porteuse aux droits à la mobilité, comme les droits de l'homme au XXIe siècle.
Eh ben, merci Émilie pour ces précisions. Donc, Radio Utopia conclut sur un remerciement général. Donc, alors, on remercie spécialement Dania, notre invitée. On remercie tous nos chroniqueurs, donc Marie, Olivier, Chloé, Carla, Sarah, Cassandra, Florian, Émilie, Clarisse et Philly. Merci à Panda, notre technicien. Et enfin, merci à mon animatrice principale, Laurine.
Merci, de rien. Merci Mathieu, à toi aussi.
Mais merci, de rien. Voilà. Je laisse la parole à Laurine.
Donc, comme on l'a dit dans l'interview précédemment, au CDI, nous pouvons accueillir une exposition de Osam Khatan, qui est un jeune et talentueux photographe autodidacte de 21 ans. Il est d'origine syrienne et d'Alep. Et en fait, il a commencé à photographier tous ces événements dans son quartier. Et maintenant, il accompagne de grands journalistes étrangers à travers plusieurs affrontements. Et il a été publié dans les médias tels que BBC, Le Monde, etc. Voilà, merci à tous.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
شوف الاخ اللي فينا ماتي لما تسالي فينا ما تدوز الصبح شوف داك السمو المول شي ما غير كرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا